Belgique en tout cas. C'est l'émission la plus regardée. Et ce succès ne se dément pas. Il faut savoir aussi que la consommation de télévision, contrairement à ce qu'on a pu craindre dans les années 2000, la consommation de télévision n'arrête pas d'augmenter. Aujourd'hui, la durée moyenne de consommation en Belgique francophone, c'est 3h50 par jour. Oui, cela dit, réfléchissez, si vous ouvrez votre poste à 7h, ça veut dire que vous l'éteignez à 10h50, c'est pas énorme.
Et on ne regarde pas nécessairement.
Et on ne regarde pas en permanence. Mais donc, la fonction du journal télévisé, c'est quoi? C'est de rameuter tous les publics partiels, les jeunes, les vieux, les dames, les messieurs, les chômeurs, les actifs, etc., autour de quelque chose de consensuel où tout le monde se retrouve pour être présent devant le premier programme de la soirée, ce qu'on appelle le prime time, et surtout devant l'écran publicitaire qui se trouve entre le journal télévisé et le prime time. C'est ça la fonction du journal télévisé, c'est pas de faire de l'information. Donc, c'est vrai qu'on va vous imposer, comme vous dites, des sujets qui ne vous intéressent pas, vous, mais qui ont, d'après les études d'audience, la fonction de rameuter le maximum de personnes.
Mais c'est bien dommage, parce que c'est
attendez, je vous donne.
On va vous donner le micro, parce que comme on enregistre, sinon on ne comprend pas.
Je dis, c'est bien dommage, parce que comme vous avez un large public à ce moment-là, c'est l'occasion de leur donner des informations et qu'ils s'intéressent de manière un peu plus approfondie à toutes ces informations.
C'est la logique du marché. C'est la logique du marché.
C'est une chaîne publique, monsieur, avec nos sous, hein.
Moi, je ne suis plus à l'ASBF depuis 2003.
Vous avez fait un suivant assez complet des médias. Mais que pensez-vous des attachés de presse et des porte-parole toujours comme on l'a dit?
Alors, attaché de presse, porte-parole en tout genre, vous savez, ce qu'on constate en général, c'est que les moyens de l'information diminuent dans la mesure où les moyens de la communication augmentent. C'est-à-dire que de plus en plus, les partis, les sociétés, les entreprises, les associations investissent beaucoup dans la communication et essayent aussi de bypasser les journalistes, de s'adresser directement au public à travers, justement, Internet, à travers toutes sortes de moyens de communication directe. Ils ont ce qu'ils appellent des « owned media », donc des médias qui leur appartiennent, sur lesquels ils peuvent faire passer leur message directement, ou bien ils font de ce qu'on appelle de la « native advertising », du public reportage qui s'insère dans le flux des informations journalistiques. Sur Huffington Post, il y en a plein, même sur Le Monde et sur L'Express, sur les sites du Monde et l'Express, il y en a plein, c'est-à-dire des reportages qui ont l'air d'être de... C'est un peu comme Canada Dry, hein. Ça a l'air d'être de l'information, mais ça n'en est pas, c'est de la pub, en fait. Hein. Donc, cette stratégie qui consiste à créer de plus en plus de confusion entre information d'intérêt public et communication à l'usage et à l'intérêt de ceux qui la diffusent, cette stratégie-là, elle est de plus en plus forte et de plus en plus puissante. Ça se manifeste aussi par le placement de produits dans les émissions, dans les fictions, dans les émissions de variété, par exemple. Hein, le fait qu'il y ait de plus en plus de publicité dans le contenu même du programme. Pourquoi? Parce que les publicitaires se sont rendus compte qu'on zappait les écrans, on zappait les spots publicitaires entre les programmes. Donc il faut mettre la publicité dans les programmes pour qu'on soit obligé de la regarder. Et donc, c'est vrai que la communication se développe de plus en plus et que les moyens d'information, à l'inverse, les plans sociaux sont constants dans les journaux, on liquide, on diminue le personnel, on liquide, tout en disant qu'on donne priorité au contenu, mais il y a de moins en moins de journalistes pour faire le travail. C'est complètement contradictoire, évidemment. Et les attachés de presse et les attachés de communication, c'est des barrages, beaucoup plus que des diffuseurs. Ils essayent d'empêcher la diffusion de choses qui sont désagréables pour leur patron, et en même temps de faire des écrans de fumée avec d'autres types de contenus. Mais souvent, si vous faites une analyse du contenu de l'information médiatique, vous allez voir qu'il y a beaucoup de messages de communication qui passent quand même à travers le filtre des journalistes, parce que simplement, ils sont moins nombreux qu'avant, ils ont moins de temps qu'avant, il y a de plus en plus de journalistes indépendants, entre guillemets, qui vivent très mal de leur plume et qui sont obligés de faire plusieurs sujets par jour et donc ne peuvent pas faire de qualité. et qui donc laissent passer la communication à travers leur contenu parce qu'ils n'ont pas le temps de faire autre chose.
Une question, quand je vois le journal RTBF, puis l'enchaîne RTL, c'est copie conforme. Et une question, oui, dans l'autre sens, une question, comment ça se fait que la chaîne Arte, ça je voudrais savoir, je la trouve tout à fait à part, et traite quand même des sujets de fond. Là, on trouve des émissions, peut-être pas pour le peuple en entier, mais quand même de qualité. Alors, d'autre part, deuxième question, vous parliez médias et politique. La RTBF, je crois que tous les journalistes doivent avoir leur carte d'un parti et sont nommés en fonction de leur carte. Donc, comment peut-on être un journaliste indépendant en ayant sa carte du parti?
Alors, deux choses sur Arte. Ce que j'essayais de vous montrer, c'est que ce dont je parlais jusqu'à maintenant, ce sont les médias grand public. Les médias qui sont regardés par le grand public. Arte, c'est 3% maximum du marché. 3%. Alors évidemment, c'est une très bonne chaîne, c'est excellent, le contenu, etc. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une sorte de règle générale qui est que, et ça c'est pas nouveau, plus le contenu est riche, moins l'audience est importante. Parce que s'informer, ça fatigue.
Exact.
Et là, oui. Et la majorité des gens consomment les médias comme un moyen de loisir, de divertissement, plus que comme un moyen d'information. Ils sont devant leur poste de télé, ils arrivent de leur boulot, ils sont fatigués, ils s'affalent dans leur fauteuil et ils zappent sur le programme qui va les fatiguer le moins. Et donc, effectivement, toutes les stratégies que j'ai développées là, ce sont les stratégies des médias de grand public qui s'adressent à un grand public de gros consommateurs et qui ne sont pas des consommateurs aussi avisés et aussi critiques que vous. Mais malheureusement, c'est un public très minoritaire.
Oui, mais vous parliez politique, médias. On se pose la question en France notamment, pourquoi la jeunesse se désintéresse totalement de la politique et tout, mais aussi les médias présentent la politique d'une certaine façon.
Ils la présentent, comme je l'ai dit, donc, c'est-à-dire avec cet aspect sensationnel.
Les jeunes vont chercher autre chose, et pour eux, le seul outil qu'ils ont maintenant pour trouver autre chose que les médias traditionnels,
c'est Internet. Avec les contenus complotistes,
propagande.
Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais je crois que les médias devraient se remettre en question et proposer peut-être encore un autre outil.
Les médias ne vont pas se remettre en question parce qu'ils sont complètement dans la logique du marché. Le marché, c'est ça qui marche.
RTL,
le marché, c'est ça qui marche. Et même les chaînes de services publics s'insèrent dans le marché. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la RTBF, par exemple, doit tirer 25% de son budget de la publicité et du sponsoring. Donc, à partir du moment où une partie de vos revenus, dépend du marché, vous êtes sur le marché. Vous devez adopter les lois du marché. C'est vraiment catastrophique, si vous voulez, mais en plus, le système de mesure de l'audimétrie défavorise considérablement les chaînes de qualité. Pourquoi? Comment ça marche? Il y a 750 ménages qui font partie de ce système de mesure de l'audience. 750 ménages en Belgique francophone. Donc Bruxelles, Wallonie. C'est pas grand chose, mais enfin, statistiquement, c'est significatif, c'est suffisant. Alors, ces 750 ménages, ils ont quoi? Ils reçoivent un petit appareil qui est chez eux et sur lequel on enregistre la consommation du ménage. Changer de chaîne, allumer, éteindre, etc. Ces informations sont transportées par câble à un ordinateur central qui, comme ça, établit les scores d'audience des différentes chaînes captable en Belgique francophone. Le problème, c'est le renouvellement de ce panel. Évidemment, il est constitué de manière plus ou moins à représenter la société telle qu'elle est, c'est-à-dire moitié d'hommes, moitié de femmes, des actifs, des inactifs, des vieux, des jeunes, des urbains, des ruraux, etc. Mais évidemment, c'est absolument impossible d'avoir une représentation parfaite sur 750 ménages. Donc il y a des pondérations. On va pondérer certaines catégories. Par exemple, s'il y a une personne qui représente les agriculteurs, elle va avoir un poids considérable sur les choix des agriculteurs. Voilà. Alors, le renouvellement est extrêmement difficile. Sur 100 personnes contactées, il y en a deux qui acceptent. Pourquoi ? Parce que les gens considèrent que c'est une intrusion dans leur vie privée, que c'est Big Brother à la maison. Un. Et deux, les seuls qui acceptent, ce sont les gros consommateurs. Les gros consommateurs de télévision, parce que eux, ils trouvent un intérêt à ce que leur choix soit répercuté dans l'audience, dans les chiffres d'audience. Or, le public se partage en trois tiers. Les statisticiens partagent, je dis de manière arbitraire, le public en trois tiers. Les gros consommateurs, les consommateurs moyens et les petits consommateurs. Donc, heavy viewers, medium viewers, light viewers. Tous les gens qui acceptent de participer au système sont dans la catégorie des heavy viewers, des gros consommateurs. Donc, l'audimat reflète les choix des gros consommateurs. Et c'est logique. Parce que l'audimat, il sert à qui ? Il sert aux publicitaires. Il sert à calculer le prix des publicités. Pour savoir quelle est l'audience à l'heure où passe la publicité. Et donc les annonceurs, ça ne les intéresse pas d'avoir des gens qui ne regardent que peu ou rarement la télévision. Ce qui les intéresse, c'est les gros consommateurs de télévision, qui sont aussi, comme par hasard, les gros consommateurs de machines à laver, de voitures, de détergents, de nourriture pour chats, etc. Ce sont les gros annonceurs en télévision. Donc, le système se mord un peu la queue, si vous voulez, et accentue, favorise cette espèce de priorité qui est donnée au public, au contenu racoleur, propagande, populaire, etc., et aux choix que monsieur déplore à juste titre, mais qui sont des choix stratégiques dictés par le marché. Quant à la RTBF, ce que vous dites était vrai jusque à la fin des années 80. Depuis lors, il y a un système qui a été mis en place et qui garantit l'indépendance des journalistes, en tout cas. Je ne dis pas que dans les désignations des responsables au plus haut niveau, administrateur général, directeur de la télé, directeur de la radio, il n'y a pas un certain équilibrage politique, mais sur base de projets et de mandats qui sont évalués par des groupes d'experts et par le CSA. Et donc on choisit parmi ceux qui ont des projets intéressants en fonction de l'équilibrage politique. Ce qui est vrai, c'est que le conseil d'administration, comme c'est une administration publique, enfin une entreprise publique, le conseil d'administration est le reflet de la composition du Parlement de la Fédération de la Nouvelle-Française. Donc il y a des socialistes, des CDH, écolos, je ne sais pas s'il y en a encore, MR, etc. Et ce conseil d'administration, il a un rôle politique, c'est-à-dire qu'il a veillé à ce qu'il y ait une certaine forme d'équilibre dans la présentation des différentes tendances politiques à l'antenne. On n'interroge pas tout le temps des socialistes et pas tout le temps des libéraux, etc. Mais l'étiquetage des journalistes, ça a pris fin. Et grâce à un mouvement de protestation des journalistes eux-mêmes, en 1984, il y a eu une véritable révolte des journalistes qui ont demandé à ce que prenne fin ce système d'étiquetage politique. Et on a créé une association qui s'appelait l'Association des journalistes. 160 journalistes de la RTBF ont dit nous nous désaffilions, nous refusons ce système d'étiquette. Et depuis lors, le recrutement et jusqu'au niveau, si vous voulez, des responsables, le recrutement se fait sans tenir compte du tout de l'appartenance politique.
Merci beaucoup de nous avoir expliqué ce que normalement tout le monde dans le public a déjà compris concernant la publicité, mais avant la télévision, avant la radio. La publicité sert à vendre des marques, des marques, des marques. Vous nous avez bien expliqué ce qu'on pouvait déjà sentir, que la publicité a très bien compris que la télé, les journaux, le web, etc. À nous, et surtout à nos descendants, d'apprendre la critique. Quand on lit un livre d'histoire, on doit appliquer la critique historique, eh bien on devrait, disons, expliquer et enseigner la critique de tout ce qu'on nous envoie. Et donc, ça c'est le côté positif du web, de Facebook, etc. Il faut le savoir, parce qu'il y a du bon, il y a même du très bon. Mais Wikipédia qui donne un avis sur quelque chose, il est bon d'aller voir autre part, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas exagéré. Donc moi je crois que ça c'est même le point positif, et à nous d'être critiques, et ça ne me plaît pas trop ça, que faire, mais pas surtout.
En fait, c'est ce qui arrive à l'éducation maintenant.
Oui. Vous avez tout à fait raison. Et,
l'éducation a changé à ce niveau-là.
Je suis toujours frappé par le fait que chaque fois qu'un nouveau ministre de l'Éducation entre en fonction, il dit « Ah là, l'éducation aux médias, c'est une priorité absolue. » C'est toujours pas au programme. Il y a deux centres de référence, un pour l'enseignement libre, un pour l'enseignement lycée, qui sont très bien, qui donnent des éléments pédagogiques aux enseignants qui veulent faire de l'éducation aux médias. Mais ça dépend entièrement de la bonne volonté d'enseignant, c'est pas au programme. Peut-être que ce sera dans le cours de rien. Mais en tout cas, ça n'est pas au programme. Et c'est très dommage, parce que c'est aussi important que de savoir lire, écrire, c'est sûr, calculer. C'est comprendre la logique des médias qu'on consomme. Et comme vous dites très bien, c'est vrai que sur le net, on trouve des éléments qui nous permettent d'exercer cette critique. Il y a un site français qui s'appelle Acrimed, qui est formidable. Action critique média, Acrimed. Je vous conseille vivement de lire, et qui permet, ou Tune.be en Belgique, qui donne des nouvelles sur les médias et qui permet de comprendre la logique qui est à l'œuvre. C'est vrai que c'est. Mais, comme disait mon maître Gabriel Tendron, s'informer fatigue.
En fait, ce qui est nouveau, en fait, dans les médias, c'est quelque chose qui est typiquement belge. C'est l'humour. Ça, c'est tout à fait nouveau. Moi, ça fait quelques années que moi, je rigole dans mon lit tous les matins avec les cafés serrés, hein.